Et Martin Bélanger a écrit La fin de nos programmes. C'est son premier roman publié chez Del Busso. Bonjour Martin Bélanger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Alors, c'est un des livres que j'ai lu en vacances avec beaucoup de plaisir.
Ah ben vous m'envoyez ravi.
Et c'est votre premier.
Oui,
et
tout à fait.
Vous êtes dans le milieu de la publicité depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé un jour d'écrire un roman?
Ben, il y a une couple de facteurs. Premièrement, moi, je suis un grand lecteur. J'aime beaucoup lire j'aime jouer avec les mots parce que je suis concepteur-rédacteur depuis près de 30 ans.
Et oui, ça a pris du temps avant que vous décidiez d'écrire autre chose que des textes publicitaires.
Je me sentais un peu imposteur. Je me sentais pas tout à fait les épaules pour le faire. Jusqu'à ce qu'il y ait des bons exemples dans mon industrie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres concepteurs-rédacteurs. Il y en a quand même plusieurs. Qui sont devenus romanciers, soit que leur carrière a changé ou soit qu'ils l'ont fait en dilettante, peu importe. Mais,
comme qui, par exemple?
Ben, on peut aller aussi loin que Salman Rushdie, mais on peut aller aussi passer par Frédéric Becbédé, puis plus près de chez nous, Hugo Léger, qui était un de mes collègues pendant plusieurs années, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour me partir cette première rédaction-là d'un roman.
Oui, parce que c'est quand même un milieu complètement différent, là.
Ah, c'est entièrement différent. Et puis la raison pour laquelle j'ai... Faut expliquer aussi que j'ai caressé ce rêve-là pendant une dizaine d'années. J'y ai pensé depuis longtemps, mais je me sentais pas tout à fait en mesure de le faire. Et puis bon...
Ça prend la confiance.
Ben oui, puis ça prend aussi... quelque chose à dire. Et ça, c'est très étrange parce que j'ai trouvé ce que j'avais à dire un petit peu en le faisant. C'est-à-dire que moi, c'est la forme qui est arrivée en premier. Moi, j'ai eu... Je suis un grand auditeur de radio. Donc, ça m'est arrivé comme ça. Je me suis dit, ah, ben, je vais raconter une histoire au jeu. Je voulais que ce soit quand même très... immersif, mais qui va être ponctué d'extraits de radio. Puis je vais jouer avec ces contrastes-là. Je vais faire des relations intéressantes entre des extraits de radio.
Avez-vous déjà lu un genre de roman semblable avec des extraits radiophoniques? Moi, c'est une première. Là. Ben, c'est très original.
J'ose croire que c'est une première. Ouais. Moi, j'avais confiance que c'était une forme qui était relativement nouvelle. À défaut du fond, parce que le fond, c'est une crise de quarantaine. D'ailleurs, quand je m'en suis aperçu très tard, je me suis cogné la main sur le front en disant « Bon, t'as écrit une crise de quarantaine. » Je me trouvais pas original, mais sauf que la forme lui donne, je l'espère en tout cas, un intérêt à cette histoire-là. Donc, tout ça pour dire que j'ai toujours la radio dans les oreilles, moi aussi, puis j'ai adopté un chien Mira il y a quelques années. Donc, on se met à marcher beaucoup, beaucoup de kilomètres là, dans notre quotidien avec...
Pourquoi vous avez adopté un chien Mira?
Ah, je voulais avoir un chien, puis les Mira déclassés sont offerts, c'est-à-dire que ceux qui ne franchissent pas toutes les étapes, qui ont des tout petits défauts parce qu'ils doivent être absolument parfaits, ben c'est des chiens extraordinaires.
Ils sont disponibles.
Et ils sont entraînés. Donc, ce chien-là a changé ma vie, mais au quotidien, on s'en occupe, on le marche plusieurs kilomètres par mois, pour ne pas dire à peu près une centaine de kilomètres par mois. Ça fait beaucoup de temps à passer... À divaguer un peu là. Et puis ben moi très vite j'ai accompagné ces promenades là avec la radio tout le temps ou avec des podcasts ou avec et puis c'est un beau matin comme ça en lui faisant faire sa marche du matin que j'ai eu le flash de la forme. Donc là j'ai écrit une vingtaine de pages.
Pas de plan.
Pas tout à fait de plan, c'est-à-dire que c'est sûr
dans
que
votre tête.
Je suis parti d'un événement extrêmement personnel, c'est-à-dire le décès de mon père. C'est comme ça que le récit commence. J'ai commencé par ça parce que c'est un événement qui m'a marqué, que j'avais besoin d'exprimer. Donc, j'ai commencé une vingtaine de pages en installant le personnage, en installant ces interruptions-là de la radio. Et aussi, l'autre chose qui a été comme un des premiers fondements, c'est de trouver un métier un peu absurde à ce personnage-là.
Est-ce que ça existe, ce
métier? Ça n'existe absolument pas.
Mais c'est très drôle.
Ça n'existe pas sous cette forme-là, mais je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un...
C'est quoi le titre de son poste?
C'est un préposé, je crois que c'est préposé relations citoyens, interface citoyen, un truc un peu... Un langage un peu fonctionnaire comme ça, mais c'est un donneur...
Il appelle pour présenter les excuses au nom de...
C'est un donneur d'excuses professionnel. Ouais. Donc, lui, il se surnomme un col blanc de la contrition. Et à la Ville de Montréal, comme il l'a dit, il ne manquera jamais de boulot parce que les gens écrivent pour se plaindre des délais de chantier ou des pannes ou des collectes de toutes sortes de choses.
Ouais.
Et donc, lui, sa job, c'est de... de recevoir les doléances et de présenter les excuses au nom de la ville du mieux qu'il peut.
Un emploi à temps plein, mais qui devient abrutissant.
Ben, c'est ça. Puis c'est un symbole aussi, là, parce que, je veux dire, le personnage du père de Vincent, qui est inspiré de mon propre père, c'était
Vincent,
quelqu'un...
le personnage principal, le personnage Vincent principal, Lausier.
Exact. Ben, son père, il est inspiré du mien, puis c'est un personnage qui a passé sa vie à s'excuser, qui était très effacé, mm-hmm. qui était très
comme
timide.
Comme une génération... Ouais. Plusieurs générations qui nous ont précédés, même on est un peu pris avec ça aussi là, à l'occasion.
Ben oui, puis ça se décline ce thème-là aussi de nos jours parce qu'il y a beaucoup d'excuses qui sont présentées de manière formelle, tu sais, soit de la part des gouvernements ou de la part de...
Senti, moins senti.
Et accepté ou pas accepté, ce qui m'a toujours un peu troublé. Donc ça a été comme un pattern, un thème de départ. Donc avec ce personnage-là, ce métier-là, la radio, ben là j'ai écrit une vingtaine de pages puis j'ai constaté que ça fonctionnait, que ça tenait la route. Et là, l'histoire, elle s'est... À ma grande surprise, l'histoire s'est déployée devant moi. Et puis...
Chanceux!
Ouais, ben c'est ça. Ben, en tout cas, bref, ça m'a appris beaucoup sur le procédé.
Mais c'est parce que vous la mijotiez depuis longtemps. Il n'y a pas de miracle, vraiment.
J'hésiterais pas à avancer cette théorie-là que dans ces 10 ans-là d'inconscient, il y a des morceaux qui se plaçaient.
Oui, certainement.
Et qui étaient juste prêts à être assemblés. Là.
Alors, il y a aussi un livre audio, un format audio avec plusieurs voix. Celle qui incarne... la voix qui incarne le personnage principal, c'est celle de Martin Laroche.
Exact.
On va écouter donc un extrait pour mettre un peu l'idée, donner une idée aux gens du ton de Martin Bélanger.
Je ne sais pas comment plier des robes ou des jupes, ni comment je suis censé ranger des soutiens-gorge ou des bas de nylon. Le moment serait bien mal choisi pour l'apprendre. Mon cerveau ne fonctionne pas normalement. Ma conscience est partie jouer dans le trafic. J'effectue une série de gestes qui me sont parfaitement étrangers. Je remplis des sacs de vidange. Des boîtes de rangement en plastique qui sentent le renfermé. Certains vêtements seront donnés à un quelconque organisme, d'autres seront mis à la poubelle, un ou deux morceaux seront récupérés par une tante. Je fais le tri au pif. Une chose est sûre, je suis seul dans cette chambre dégarnie, gelé dans mes sentiments et plutôt brusque dans mes mouvements. 2 jours de ce ménage, ce sera ma limite.
Vous écoutez Première Antenne au 88.7 FM à Montréal. Actualité, culture, sport et société, il est 8 heures.
Je reconnais cette voix. Un animateur de Radio-Canada, Sudbury, ça se peut-tu?
Sudbury, oui.
Oui.
Oui, j'ai voulu... j'habite Toronto depuis 3 ans. Ma conjointe travaille dans le milieu de la radio aussi.
Vous l'avez rencontrée... vous avez rencontré une voix avant de la rencontrer pour vrai?
Non, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés dans un contexte semi-littéraire il y a une dizaine d'années ou peut-être même une quinzaine d'années. La vie a fait que nos chemins se sont recroisés dans des circonstances, ajouter à ça la COVID. Et puis, je me suis retrouvé à Toronto, puis c'est là que j'ai, en plein milieu de la COVID, avec un peu plus de temps à notre mm-hmm. disposition, c'est là que je me suis lancé, sous les encouragements, évidemment, de ma conjointe qui m'avait connu pour ma plume aussi, comme je vous dis, il y a plusieurs années. Et puis donc j'ai fait appel à des collègues pour qu'ils puissent, parce que il y a personne comme un artisan de la radio pour bien reproduire des extraits de radio. Je me suis donné beaucoup de mal pour vraiment émuler la façon que les gens, les animateurs ont de parler, et un comédien aussi bon puisse-t-il être, arrivera pas vraiment à livrer ça de la manière que les animateurs le font, que les chroniqueurs le font.
Ou comme vous l'entendiez aussi dans votre tête,
exactement.
Ou comme vous l'entendez à la radio.
Bien sûr, ils vont avoir une tendance, parfois fâcheuse, de l'interpréter un petit peu
d'en
trop, de
trop.
Le jouer.
Ouais,
voilà, c'est
ouais.
ça. Puis, et c'est pas grave, parce que même, il y a Myriam Leblanc, qui est une grande actrice qui fait un rôle d'animatrice. Elle l'a livré très bien. Là, je dis pas que c'est impossible, mais d'aller faire appel à ces artisans-là, c'était un raccourci aussi commode que payant, au final, là, pour la livraison de ces lignes-là. Donc oui, il y a des gens qui étaient heureux de se prêter à l'exercice, et je les remercie encore.
Parce qu'il y a des extraits radio tout du long, là, pendant tout le roman. Mais je me dis aussi, le danger pour les animateurs radio qui lisent les phrases que vous avez écrites, c'est d'oublier qu'ils sont animateurs ou animatrices et qu'ils pensent qu'ils sont narrateurs ou narratrices. Puis là, que ça sonne faux.
Oui, ça aurait pu être le cas. Oui, c'était... Mais, Mais non, je suis allé les accompagner en studio.
C'est naturel,
et,
ça passe.
Et j'ose croire que c'est parce que la construction était, elle tombait bien, elle sortait bien de leur bouche.
Elle était plausible.
Voilà, c'est ça.
Et votre amour de la radio remonte à quand, Martin Bélanger?
Eh bien, un peu comme, comme mon personnage, tout jeune. Tout jeune, ma mère avait un vieux radio que j'ai encore chez moi. Là,
ah oui?
Qui datait des années 40, là, et puis elle l'allumait tous les matins. Donc, moi, mon enfance a été bercée avec des... je viens de la ville de Québec, puis là, ben, ça pouvait être à la fois Radio-Canada ou CHRC et CGRP à l'époque. Et
OK, votre mère n'était pas fidèle à une émission ou à un poste?
Pas forcément, non. Donc, des fois, elle aimait ça écouter André Arthur puis pogner les nerfs après, là, tu sais, elle criait après la radio dans la cuisine, et puis d'autres fois,
c'est ça qu'on fait, hein? Quand on écoute la radio, souvent, on réagit.
Oui, c'est un média qui est one-on-one. Ouais. Hein, donc, et puis donc, très tôt, la radio jouait... Tu sais, il y a des gens d'une certaine génération qui pouvaient laisser la télé allumée à cœur de jour dans le salon. Ben nous, c'était pas ça. C'était la radio qui jouait la plupart du temps. Puis, elle pouvait bercer nos journées jusqu'à l'heure du retour, là. Et puis, tout jeune, c'était aussi le média par lequel on pouvait apprendre qu'on avait congé d'école quand il y avait des tempêtes. Et on était vraiment accrochés à la radio.
Cette personne qui annonçait ça à la radio.
Et ça s'est prolongé parce que moi, j'ai fait de la radio étudiante aussitôt que j'ai pu. J'en ai fait au secondaire, j'en ai fait au cégep, j'ai fait de la radio communautaire à Québec, puis j'ai fait des petites chroniques ici et là, je suis demeuré un auditeur fidèle. Donc, c'est vraiment un amour qui remonte à longtemps, là.
Pourquoi vous n'êtes pas devenu un animateur de radio professionnel? Vous avez la voix, en tout cas, vous vous exprimez bien, vous en avez fait, vous en avez écouté, vous êtes en amour avec le médium. Mais pourquoi vous n'avez pas continué?
Ça aurait pu être une avenue tout à fait valable. Sauf que moi, j'ai commencé mon parcours, disons, universitaire en musique. Donc, on est dans le domaine de l'auditif, on est dans le domaine de l'oreille. Mm-hmm. Ça colore beaucoup le roman, vous l'avez remarqué. Donc, j'aurais pu en faire, peut-être poursuivre ça, aller dans une école pour devenir animateur. Je n'exclus pas dans un avenir prévisible pouvoir contribuer de temps en temps à faire de la radio. Je me sens bien dans un studio de radio. Comme je me sens bien dans un studio d'enregistrement quand je dois faire des campagnes radio pour mon métier. Donc, la vie ne m'a pas amené là, mais votre question est tout à fait pertinente parce que j'étais un candidat, je pense...
assez idéal.
Ouais.
Mais il n'est jamais trop tard.
Effectivement.
Et Vincent Lauzier est comme vous et comme Martin Bélanger, quelqu'un qui écoute la radio, qui aime la radio, qui est tanné de faire ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'humour dans votre roman et c'est important pour vous de l'intégrer ou c'est arrivé naturellement?
C'était vraiment capital pour moi. Donc, je trouve que c'est...
Parce qu'il y a quand même... Vous parlez de la mort de votre père. Il n'y a rien de drôle là-dedans, là.
Ah, c'est tragique. Il y a du
c'est
drame.
C'est une tragicomédie.
Oui. Moi, c'était un objectif que je m'étais donné, de créer une recette avec un équilibre d'humour et d'émotion et de drame. Les premiers éditeurs qui ont été intéressés à mon texte m'ont signifié cette caractéristique-là pour mon plus grand bonheur. Parce que je trouve que c'est difficile de faire ça. C'est pas donné d'avance. De faire écraser une larme et puis de faire sourire ou rire la page d'après, ben moi c'est aussi comme lecteur ce que j'aime vivre aussi à la lecture d'un livre. Donc j'ai essayé d'écrire en quelque part quelque chose que j'aurais aimé lire, évidemment. Ouais. Et quand un auteur réussit, je trouve, à bien combiner les deux, moi je trouve que ça crée une belle expérience.
Mais les commentaires sont très bons jusqu'à maintenant. Vous disiez que vous n'aviez pas d'expérience en tant qu'écrivain, mais le livre s'est écrit à force de marcher, puis ça, c'était en vous. Vous avez parlé de Hugo Léger, qui vous a aidé dans l'écriture de ce roman-là. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont veillé au grain, qui ont lu votre texte, qui vous ont donné des commentaires?
Bien, dans le cas de Hugo, il a lu mes 20 premières pages, puis il me dit, ben écoute, ça tient la route, cette affaire-là. Je pense que tu peux le poursuivre.
Il n'a pas lu au-delà de ça?
Pas jusqu'à ce que le livre soit sorti. Avant que le livre sorte, j'ai aussi fait lire mon manuscrit à une autrice qui s'appelle Nicole Bélanger, avec qui je n'ai pas de liens familiaux directs, mais on se connaissait juste un tout petit peu parce qu'elle est aussi issue du milieu de la publicité. Puis elle a eu un roman à succès, Les Rois Mongols, il y a quelques années.
Qui a été porté à l'écran par Luc Picard,
effectivement. Et donc, on s'est contacté par Internet et je lui ai présenté mon manuscrit et elle l'a vraiment beaucoup aimé. Puis elle m'a encouragé. Puis elle m'a aussi parlé un petit peu des rouages de l'édition, de comment on fait pour intéresser des éditeurs, toute la cuisine qui vient autour. Ah, mon Dieu, c'est vraiment, là, surtout en temps de COVID, les éditeurs ont été inondés de manuscrits. Ils en avaient deux ou trois fois le volume habituel.
Quelquefois, ils mettaient la clé sous la porte. Mais une façon de parler, ils disaient, on n'en veut plus, là, de manuscrits.
Moi, j'en ai un éditeur qui m'a répondu, après 6 mois, un accusé réception. Alors ça, il n'a même pas encore lu. Fait que là, j'ai envoyé ça à un grand nombre d'éditeurs, puis là, j'avais des réponses très tardives, des fois plus hâtives, puis des fois, il y avait des intérêts. Ton texte est bien, mais il ne fit pas dans ma collection, ou peu importe. Puis, fait que ça a été un processus que j'ai trouvé assez ardu. Ça prend une certaine rigueur là, de tout préparer ces envois-là.
Il faut croire en soi aussi, là, pas parce qu'on se fait dire non de quelques fois que ça veut dire que ce qu'on écrit, ce qu'on propose, c'est pas bon. Là.
Grâce à des feedbacks comme ceux que Nicole Bélanger avait pu me fournir, j'avais un minimum de confiance pour présenter le manuscrit. Puis finalement, avec Del Busso, ça a cliqué. Puis
Del Busso, qui est une maison d'édition... québécoise?
Oui, oui, c'est une. Ça date de quand même plusieurs années, Del Busso. Et le fondateur de cette maison-là est en train de passer
le flambeau.
Le flambeau aux enfants, donc à Mélanie et Julien, frères et sœurs.
Ah, c'est bien.
Avec eux. Oui, c'est ça, une toute petite maison d'édition. Puis pour un premier roman, en tous les cas, ça se prêtait tout à fait. Ça se prêtait très bien, puis ça s'est très bien passé là, pour tout ce qui est. Le développement de tout un processus qui m'était absolument pas familier. Là,
mais non.
Donc, eux, ils ont été intéressés par mon texte, entre autres parce qu'ils l'estimaient assez achevé dès le départ. J'ai appris beaucoup aussi sur le type de texte que les éditeurs peuvent recevoir parfois. Puis, il y a des gens qui ne se relisent pas.
Il y a du bon, puis il y a du n'importe quoi.
Effectivement.
Ouais. Et Vincent Lauzier, on s'attache au personnage, il vit toutes sortes d'affaires, il va rencontrer des filles, il y en a une avec qui ça va peut-être cliquer, on n'en dira pas plus. Il y a un souper au restaurant qui est assez mémorable. Vous nous donnez faim en plus, là, parce que vous avez l'air d'aimer manger. Et il y a de la description de plats. Donc, on s'attache à Vincent Lauzier et on aimerait en savoir davantage sur ce personnage-là. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite? Est-ce que vous planchez sur un prochain roman qui n'a pas à voir avec lui?
J'y ai pensé. J'y ai pensé parce que moi aussi, je me suis attaché à Vincent. Et une suite, parce que la fin du roman, il ouvre. Hein?
Oui.
Il sous forme de promesses plus que...
Il y a des changements là, dans sa vie professionnelle,
absolument.
Personnelle. Alors, on veut en savoir plus.
Tout à fait. Donc, ça invite à une suite. Cela dit, je suis présentement au balbutiement, au première ligne d'un éventuel deuxième roman. Et je pense que pour l'instant, je vais choisir la voie de créer autre chose complètement.
Sortir de l'univers de Vincent Lauzier.
Peut-être que je vais changer d'idée dans 2 semaines. Parce que moi, j'aime bien aussi, à l'instar des Pierre Lemaître ou à l'instar des Daniel Pennac, de créer une galerie de personnages et de voir évoluer. Mais je n'ai peut-être pas ce souffle-là non plus. Donc, je vais aller explorer d'autres thèmes pour le prochain, possiblement.
Ça serait quoi le thème exploré dans le deuxième roman, dans le prochain roman?
Je préfère pas en parler tout de suite parce que
on n'aura pas le scoop.
J'ai l'impression que ça risque fort de changer et de bord. Pour l'instant, c'est autour des demi-tours. C'est tout ce que je peux dire.
Autour des demi-tours.
Oui.
Il y en a beaucoup sur
les volte-face.
Oui, OK. Alors, on va surveiller ça. Mais en attendant, j'invite les gens à lire votre premier roman, Martin Bélanger. Je rappelle le titre, La fin de nos programmes. Et merci d'avoir été d'avoir pris la peine de vous déplacer. Mais j'espère que vous n'êtes pas parti de Toronto.
Je suis parti de Toronto ce matin.
Non.
J'ai d'autres. Moi, je reviens dans mes. Je vais même à Québec ce soir, mais.
Ah oui!
Je reviens au Québec de manière assez fréquente, mais je vous remercie de m'avoir reçu.
Fait plaisir, puis bon succès. C'est très bien parti et bonne continuation.
Merci.